Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Garder, je te livre tout avec bonheur. Divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps.
Ce matin, on va regarder un petit peu, bien sûr, l'amour de Dieu, c'est le sujet. Et le jugement de Dieu, bien, c'est pour ceux qui doivent être jugés, mais si vous êtes en Christ, vous avez été déjà jugé. Et vous avez été déjà pardonné. Et on peut se réjouir dans son amour. Alléluia. Amen. À part ça, comment ça va?
Amen.
Amen. Bon d'être ici ensemble, n'est-ce pas?
Amen.
Et se réjouir dans le Seigneur. C'est-tu mieux, ça? Dernièrement, faut que j'aille me faire choquer les yeux. OK. Amen. Êtes-vous prête?
Amen.
Amen. Il y a l'histoire d'une femme qui dit à son mari, « Chérie, j'ai rêvé hier soir que tu m'as donné un collier de perles pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? » Tu vas le savoir ce soir, dit son mari. La soirée est finalement arrivée et le mari arrive à la maison avec un petit cadeau et le donne à sa femme. Elle est ravie et elle ouvre le petit paquet avec un grand sourire sur les lèvres. Elle déballe le cadeau pour trouver un livre intitulé « L'interprétation des rêves ». Hein? C'est ça la vie. Mais le titre du message ce matin, c'est « la plus grande chose dans la vie ». Il y a quelque chose, comme vous savez, comme moi, qui manque dans la société humaine. Il y a quelque chose qui manque dans le cœur humain. Ce quelque chose réglerait beaucoup de problèmes dans le monde. C'est quoi? C'est quoi la plus grande chose? La question a été posée, par exemple, à Oprah Winfrey. Oprah Winfrey demande à un auteur populaire cette question: quelle est la chose nécessaire pour être une personne véritablement spirituelle? Le monsieur répond: le courage. Le courage, cela est même plus important que la foi. OK. Est-ce que vraiment c'est la chose la plus importante? Le credo des Jeux olympiques qui a été adapté en 1908 est ceci: la chose la plus importante dans les Jeux olympiques et dans la vie n'est pas de gagner, mais de participer. La chose la plus importante, de participer, c'est leur opinion. L'actrice Audrey Hepburn, Elle dit la chose la plus importante dans la vie, c'est de se réjouir de ta vie, d'être heureuse, heureux. C'est tout ce qui compte. Ah oui? Être heureux, est-ce que c'est vraiment le but de la vie? Taylor Swift, une chanteuse américaine populaire, dit ceci: la chose la plus importante, c'est de danser au beat de ton propre tambour et avoir l'air de t'amuser plus que les gens qui l'ont de l'air cool. Elle, pour elle, la chose la plus importante, c'est danser. Mais quelle est la réponse du Seigneur Jésus-Christ à cette question? Qu'est-ce qui manque dans le cœur de l'homme? Jésus aussi a une réponse à cette question. Béni soit le Seigneur, béni soit Dieu, qu'il a une réponse, elle est véritable, elle est libératrice, cette question qui est répondue par Jésus. Et Jésus a dit, comme vous le savez: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est la chose la plus importante dans la vie. C'est qu'est-ce que Jésus a dit? La chose la plus importante. Et alors, c'est le premier point: aimer Dieu est la chose la plus importante dans la vie. Aimer Dieu. Paul l'a dit, il l'a dit d'une façon dramatique, si on peut dire, lorsqu'il a dit: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Wow! Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est ça que ça veut dire. Wow! Qu'il soit maudit, qu'il soit séparé de Dieu. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Si je vous demande la question ce matin: qu'est-ce que vous pensez est le péché le plus pire dans le monde? C'est quoi le péché le plus pire? Il y a des gens qui vont penser comme moi, qui vont dire l'abus des enfants, ça c'est quelque chose que on ne peut pas accepter. L'abus des enfants, d'autres vont dire le génocide, ou d'autres vont dire le meurtre, c'est la chose la plus pire au monde, mais non, ce n'est pas ça la réponse. La plus pire, c'est de briser le plus grand commandement que Dieu nous a donné. Alors, ne pas être amoureux de Dieu est la chose la plus pire. La plus pire chose, c'est de ne pas aimer Dieu. Wow! Et alors, c'est une chose que, naturellement, le Seigneur nous donne par son esprit d'aimer de plus en plus celui qui nous aime, qui nous a aimés le premier. Ça rend la tâche possible par son esprit d'aimer Dieu de tout son cœur. Et alors, c'est la première chose dans notre vie, dans votre vie, c'est d'aimer Dieu. La deuxième chose, le Seigneur mesure notre amour pour lui. Il mesure notre amour pour lui. Dans Deutéronome, Moïse avertit le peuple parce qu'ils étaient tentés de suivre après d'autres dieux. Et il dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Dieu nous met à l'épreuve. Il a mis son peuple à l'épreuve pour savoir s'il l'aime. Par exemple, s'il arrive dans votre vie une personne d'influence ou une personne spéciale qui entre dans votre vie. Vous avez un besoin énorme et cette personne entre dans votre vie et cette personne vous impressionne ou vous tombez en amour avec cette personne, mais cette personne a tendance à vous éloigner du Seigneur. Cette personne a tendance à vous éloigner de votre marche avec Dieu. Cela, frères et sœurs, peut être un test de la part de Dieu pour voir si vous aimez vraiment le Seigneur de toute votre force. Un test. Facile à voir. Et des fois, il veut savoir combien de gens j'ai entendu parler, combien de chrétien, j'ai entendu parler, oh, cette personne-là ou une autre personne aime le Seigneur, mais ils ne suivent pas. Non, ça ne marche pas. Si tu aimes le Seigneur, il est le premier dans ta vie. Et Dieu veut, il veut avoir cette intimité avec nous. Jésus a demandé à Pierre, vous vous rappelez, trois fois, s'il l'aimait. Après que Pierre avait renié trois fois, et Jésus demande trois fois, et Pierre répond, « Oui, Seigneur, il avait été converti, il avait été convaincu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Imaginez aujourd'hui si vous êtes en train de conduire votre auto, vous êtes seul, et tout soudainement, pouf, le Seigneur apparaît à côté de vous. Et il vous demande cette question ou vous demande une question semblable à cette question-là. Est-ce que vraiment tu m'aimes? Et cela nous fait méditer sur nos priorités dans la vie. C'est quoi? Les choses ou la chose la plus importante dans ma vie. Alors, aimer Dieu, c'est la chose la plus importante. Savoir que Dieu mesure, il veut savoir votre amour pour lui. Et cette marche, cette façon de vous exprimer devant le Seigneur, qu'on a fait d'ailleurs dans la louange et l'adoration, qu'on peut s'exprimer envers le Seigneur. Et la troisième chose, aimer Dieu nous aide à anticiper son retour, sa venue. L'apôtre Paul anticipait sa mort, même sa mort, et le retour de son Seigneur. Et il dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront, quoi? Aimé son avènement. Aimé son avènement. » Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu là, une couple d'années déjà, ou durant la pandémie, je ne sais pas si vous avez vu à la télévision, un père qui sert dans le militaire américain et qui était parti à Afghanistan ou à un autre pays, et il revient à la maison, c'est une surprise, les enfants ne savent pas, et la mère le sait, mais c'était à Noël, et puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont... Ils ont mis une grosse boîte, puis le papa est embarqué dans la boîte, c'était emballé. Avez-vous vu ça? Il y en a qui ont vu ça. Et soudainement, à Noël, la famille est là, le petit garçon est là, et puis le papa sort de la boîte. Je n'ai pas trouvé une photo avec le papa qui sort de la boîte, mais c'est lui. Et puis, il est là pour embrasser son fils. Et le garçon aspire à la réunion parce qu'il aime son père. Il aime son papa. Son papa était parti au loin. Il a hâte de revoir son père. Et alors, de même pour nous. De même pour nous en tant que chrétiens. De même pour nous avec celui que notre cœur aime, le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous avons des signes dans les cieux, nous avons des signes tout autour de nous, nous avons les nuages dans le ciel, nous avons les couchers, les levées du soleil qui nous rappellent de lui, nous rappellent de son retour, nous rappellent qu'un jour, il va revenir et il va établir son royaume. Et alors, sommes-nous autant excité. Est-ce qu'on anticipe, comme ce petit gars anticipait de voir son papa, de voir son père encore, est-ce qu'on anticipe que Jésus va revenir nous chercher? Est-ce qu'on peut proclamer, comme d'ailleurs Jean a proclamé dans l'Apocalypse, « Amen, viens Seigneur Jésus! Viens Seigneur Jésus! » Et alors, aimer Dieu nous aide anticiper son retour, puisqu'il n'y aurait plus de problème. Moi et ma femme, on a connu une jeune fille lorsqu'on était sauvés et qu'on a commencé dans une église. Et puis, il y avait une jeune fille à peu près de notre âge qui était là. Mais elle était petite, la fille. Et puis, elle avait un problème d'arthrite aiguë. Et puis, elle avait de la misère à marcher, de la misère à monter les marches. Puis, toute sa vie. Et je l'ai vue là, à peu près 3 ans de ça. Je ne l'avais pas vue. J'ai perdu de vue pendant 35 ans. Mais là, 3 ans, on l'a vue encore. On a dîné avec elle. Et c'était tellement merveilleux. Mais c'est une femme qui souffrait tellement. C'est une femme qui n'était pas belle dans son apparence. Mais on l'aimait tellement, parce qu'on aimait son cœur. Et finalement, l'année passée, elle est décédée. Et savez-vous que j'ai dit, merci Seigneur, finalement, elle est libérée. Et elle est auprès de son Seigneur qu'elle aimait de tout son cœur. Et un jour, frères et sœurs, nous allons être libérés. C'est quelque chose à anticiper, chacun de nous. Et alors, aimer Dieu nous aide à anticiper son retour. Et quatrièmement, nous devons lui montrer notre amour. Nous devons lui prouver notre amour. Dieu démontre son amour pour nous, n'est-ce pas? Dieu même a prouvé son amour. Vous dites, bon, pas besoin de le prouver. Mais oui, mais Dieu a prouvé son amour, n'est-ce pas? Mais Dieu prouve, amen, son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. il l'a prouvé. Comment peut-on prouver notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ? Je veux vous donner ce matin quelques façons qu'on peut prouver son amour. On commence. Je commence à prêcher maintenant, OK? Je vous donne les points ici, mais je ne serai pas long. Mais comment est-ce qu'on peut prouver notre amour pour lui? Premièrement, en le mettant, le plaçant avant toute chose et avant toute personne dans notre vie. Avant toute chose, avant toutes les bébelles, avant tout le salaire, avant toutes les belles choses, avant toute personne, avant toute chose. Le placer le premier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Wow! On appelle une personne qui avait des problèmes conjugaux et puis qui me demandait, « Oui, mais ma femme, elle n'aime pas le Seigneur. » Puis il voulait se débarrasser. Et il m'a cité ce verset-là. Puis j'ai dit, « Wow! Attends une minute, c'est pas ça que ça veut dire. » Ça veut dire que Dieu doit être le premier dans notre vie. Et qu'est-ce que ça va faire dans notre vie si vraiment il est le premier dans notre vie? Si le Seigneur Jésus-Christ est a la première place dans notre vie, nos relations avec nos proches, nos relations avec notre époux, notre épouse, avec nos enfants, avec l'Église, avec les frères et sœurs, seront mieux, seront beaucoup mieux, seront au centuple mieux. Parce que si nous aimons Christ de tout notre cœur, ça va être facile d'aimer les autres. Ça va être facile d'aimer. Ça va être facile à regarder et d'avoir la gloire de Dieu dans d'autres personnes. Et alors, on prouve notre amour envers lui en le plaçant avant toute personne et toute chose. Parce que si on fait ça, si on le place prioritaire dans notre vie, toutes les autres choses vont être bénies. Toutes les autres choses, Dieu va nous aider à aimer. Dieu va nous aider avec notre patience. Dieu va nous aider avec nos relations et les circonstances de la vie. Je sais que ce n'est pas facile. Mais avec Christ, qui est le premier dans notre vie, il va rendre la tâche possible. Amen. Deuxièmement, comment est-ce qu'on prouve notre amour pour lui en lui disant que nous l'aimons? Qu'est-ce qu'une jeune personne, si je peux dire ça, a besoin plus que toute autre chose? Qu'est-ce que nos enfants ici, qu'on a vus ce matin, ont besoin que toute chose? Est-ce qu'ils ont besoin de la popularité? Est-ce qu'ils ont besoin d'être acceptés? Est-ce qu'ils ont besoin d'un bon estime de soi? C'est des choses certainement importantes. Est-ce qu'ils ont besoin d'un succès, on espère? Est-ce qu'ils ont besoin un peu plus tard de l'argent pour vivre? Oui, mais ce n'est pas les choses qui sont les plus importantes. Qu'est-ce que la chose la plus importante pour nos enfants? Qu'est-ce qui est plus important pour eux autres? C'est que leur père et leur mère leur disent, « Mon fils, ma fille, je t'aime. » Amen. Comme notre papa a dit à ses filles. Amen. Je t'aime. Combien de fois on a besoin de ça? En tant qu'enfant, on a besoin de ça. Hein? Je connais des gens qui ont eu des bons parents, mais les parents n'ont jamais verbalisé à leurs enfants qu'ils les aimaient. On a besoin de le dire. De même pour nous envers Dieu. Le psalmisme a dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Combien de fois? Oh, c'est celle-là. OK, « Je t'aime. Je t'aime. » Et combien de fois dans les psaumes, Combien de fois le psalmiste dit « Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel de tout mon cœur. » Alors, on a besoin de le dire. C'est pour ça que c'est important. Lorsqu'on entre dans sa présence, lorsqu'on entre dans la présence de Christ, ensemble, on a besoin d'ouvrir notre bouche. Il y a des temps d'être silencieux. Il y a des temps de louer le Seigneur. Et on a besoin de le verbaliser ensemble. Je t'aime, ô Éternel. Quelle est une autre façon de prouver notre amour envers lui? Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Amen. Hein? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je ne peux pas ajouter un commentaire là-dessus. C'est qu'est-ce que Jésus a dit. Une autre façon qui est très proche de ça, c'est couplé ensemble, dans le psaume 97, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Haïssez le mal. Je ne veux pas dire haïssez le mal dans les autres. Haïssez le mal en moi, en nous, en soi-même. Haïssez le mal. Et gardez ce commandement. C'est une façon de prouver notre amour envers le Seigneur. Ensuite, comment est-ce qu'on peut le prouver? En parlant avec lui. La prière. En parlant avec lui. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Je l'invoquerai toute ma vie. Alors, en parlant avec le Seigneur, en parlant, en le louant, en l'exaltant, mais aussi en venant avec vos problèmes, venir avec nos fardeaux, avec nos épreuves, avec nos difficultés, avec les situations dans notre vie, on a besoin. Je sais, des fois, ça ne nous tente pas, on est fâché. On doit venir. Et là, invoquer le Seigneur toute notre vie, c'est une autre façon de le faire. Ensuite, en aimant le peuple de Dieu, en aimant les uns les autres. 1 Jean dit, « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Amen. Celui qui aime Dieu va aussi aimer son frère et sa sœur. Amen. Une dernière preuve, avant de passer à d'autres choses, c'est... En aimant sa parole, je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Tellement de versets encore dans les psaumes concernant l'amour de sa parole, l'amour de ses promesses, l'amour de ses commandements. Et le psalmiste dit, je fais mes délices. Je fais mes délices de tes commandements. Bien, nous avons à la portée de la main, n'est-ce pas, des trésors qui vont nous libérer. Lorsqu'on ouvre sa parole, il va nous donner, parfois c'est la paix, parfois il va nous fortifier, parfois il va nous encourager, parfois il va nous garder jusqu'à la fin de nos jours si on a nos yeux fixés sur sa parole. C'est ça qu'il va faire. Sa parole, la bonté, les délices de sa parole. Par exemple, dans Genèse, je découvre le Créateur de l'univers et les racines de ma propre vie. Dans les livres de la loi, je découvre la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est le Seigneur. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Ça m'encourage dans ma sainteté. Ça m'encourage dans ma moralité de marcher avec Dieu. Lorsque je lis concernant la loi, dans les livres de Josué, les livres de Juges, les livres de Samuel, Chroniques, tous ces livres-là, Néhémie, je découvre la providence de Dieu, la main de Dieu sur non seulement le peuple de Dieu, mais je réalise la main de Dieu sur ma propre vie qui a choisi une nation à cette époque-là. afin que mon Rédempteur vienne. Alléluia. Par le peuple, la nation d'Israël, mon Rédempteur vient. Je le vois lorsque je lis Josué et tous ces livres-là. Quand je lis le livre de Job, par exemple, je découvre comment répondre au chagrin et à la peine, même ma propre peine. Quand je lis les psaumes, oh, les psaumes, j'apprends comment louer le Seigneur. J'apprends comment adorer le Seigneur parce que c'est des prières, effectivement. Et cela m'aide à entrer dans sa présence. Quand je lis les proverbes, j'apprends à contrôler ma langue et mon tempérament. Quand je lis Ésaïe, je vois un sauveur souffrant pour moi. Et là, il m'enseigne, l'Esprit de Dieu m'enseigne de prendre mon vol comme l'aigle. Comment courir sans se lasser et comment marcher sans être fatigué. Lisez Ésaïe et vous serez touchés de cette façon-là. Et lorsque finalement j'arrive aux évangiles, oh, l'évangile, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je me tiens dans la présence du Nazaréen. Alléluia. Je me tiens dans sa présence et je suis émerveillé. Je suis émerveillé par lui. Je suis émerveillé par Jésus. Quel est celui-ci? Il disait, à qui obéissent même les vents et la mer? Et je lis ces histoires et je suis béni, alléluia. Et lorsque je me tiens sur le mont du Calvaire, là je vois mon péché et là je vois mon sauveur. Oh, quel sauveur merveilleux je possède, alléluia. Et cela me bénit encore lorsque je continue à chercher les saintes écritures et les évangiles, alléluia. Mais on n'a pas fini, n'est-ce pas? On tourne la page et je suis auprès du tombeau vide à Christ, où Christ a ressuscité d'entre les morts, le tombeau est vide. Et là, Jésus me dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, ça me rassure, ça me bénit. C'est pour ça que j'ai besoin de lire les Saintes Écritures. Et finalement, j'arrive aux Actes des apôtres. Alléluia! Aux Actes des apôtres. Et là, je trouve la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Qui a été répandue dans les Actes, qui a été répandue sur les 120 et qui a été répandue sur moi et sur vous. Alléluia! Et là, je réalise que j'ai une passion dans mon cœur. Alléluia! Une passion! Et j'ai un but pour ma vie, une raison d'être pour ma vie. Alléluia! Dans les Actes des apôtres, je vois cela. Romains m'enseigne que je suis justifié par la foi seule. Alléluia! Éphésiens me rassure que je suis riche en Jésus-Christ. Philippiens, je peux me réjouir toujours dans le Seigneur. Les épîtres de Jean me donnent un commandement nouveau, mais ce n'est pas un commandement nouveau, c'est le même commandement que dans l'Ancien Testament, d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Alléluia. Et alors j'arrive au dernier livre inspiré de Dieu, au dernier livre de l'Apocalypse. Et là, il me parle de mon avenir. Il me parle du futur. Il me parle du au-delà, l'avenir éternel, et que je vais finir finalement mon voyage dans la nouvelle Jérusalem avec lui, face à face avec lui, dans la nouvelle Jérusalem, préparée pour vous et moi. Alléluia! Vous avez besoin d'applaudir le Seigneur ce matin! Pour qu'est-ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment? Pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Et alors, il me dit dans l'Apocalypse, « Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi. » Et je réponds, « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Pourquoi aimons-nous sa parole? Nous aimons sa parole parce que nous aimons l'auteur. Nous aimons l'auteur. Et pourquoi aimons-nous l'auteur? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. La chose la plus importante dans votre vie, c'est juste s'abandonner à lui. Puis dire, Seigneur, n'importe les épreuves, tu es le plus important. Alléluia. Amen. Demandez François de venir, s'il vous plaît, pour se préparer. Je veux juste une dernière histoire à vous donner. En terminant, c'est une histoire d'amour, naturellement. Alors, je vais dire cette histoire pour les amoureux. Qui sont amoureux? Ah, come on! On est tous amoureux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, voici l'histoire. Julie, elle s'appelle Julie. Julie avait descendu dans une période de découragement et de désespoir dans sa vie. Tout ça avait été déclenché par une lettre méchante d'une amie. Et son moral était très bas. Mais ce n'était pas seulement une amitié endommagée qui l'avait fait mal, l'avait blessée. Mais Julie avait aussi des problèmes conjugaux. En même temps, elle enseignait un cours biblique à la jeunesse à son église. Après un mois de janvier long et sombre, février est arrivé et aussi la Saint-Valentin. Elle espérait de recevoir une boîte de chocolat et une rose de son mari, non pas à cause des cadeaux eux-mêmes, mais parce qu'elle avait besoin d'être rassurée par son amour. Mais aucun cadeau n'était à venir. Elle avait quand même à préparer sa leçon pour la jeunesse de son église ce dimanche-là. Le sujet était sur les noms de Dieu. Et le focus cette semaine était sur El Roi. El Roi qui veut dire le Dieu qui me voit. El Roi, le Dieu qui me voit. Elle méditait sur ça et elle se mit en colère envers le Seigneur. Elle se plaint et elle commence à prier, « Oh Seigneur mon Dieu! » Si un père humain verra son enfant souffrir comme moi, il ferait quelque chose pour l'aider. T'es supposé d'être El Roi, elle dit, le Dieu qui voit, et faire quelque chose de ma situation. Avec un cœur brisé, elle pleurait devant le Seigneur à cause d'un mari qui ne se souciait pas assez d'elle pour lui donner une simple rose et une petite boîte de chocolat. Elle va pour faire son lavage dans la maison et lorsqu'elle pense pour aller dans sa chambre de lavage, elle pense la porte en arrière de sa maison et elle avait un sentiment étrange d'ouvrir la porte puis regarder dehors. Alors, elle ouvre la porte puis elle voit un sac qui pend sur la poignée de porte à l'extérieur. Le mot « Logos » était imprimé sur le sac et à l'intérieur du sac, il y avait une carte de la Saint-Valentin qui parlait du Dieu qui voit tout et qui prend soin de nous. Il y avait aussi un livre sur le sujet du réconfort avec une photo d'une rose sur le couvert. Et au fond du sac, il y avait même une petite boîte de chocolat. Immédiatement, Julie tomba sur ses genoux et demanda pardon au Seigneur pour avoir douté de son amour et le souci de Dieu pour elle. C'était un message direct de Dieu pour elle. Ce jour-là, Dieu s'avait révélé comme El Roi, le Dieu qui voit. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous ressentez blessé en votre situation, ou fâché, ou désappointé? Confiez-vous en El Roi, celui qui vous voit et qui vous connaît. Et alors, je peux dire avec confiance, joyeuse Saint-Valentin, à cause de El Roi. La plus grande chose dans ma vie, la plus grande chose, c'est de t'aimer. Amen.